RCF. Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, ici Richard Dessart de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Namur, quand c'était la guerre. Alors aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Roger Marchal. Il est né en mars 1933. Et vous savez, le projet ici, ça couvre le territoire de Namur pour les gens qui y habitent. Mais pas seulement, parce qu'ici, Monsieur Marchal habitait quand il était petit à Tillier. Alors c'est vraiment très intéressant parce qu'il va nous expliquer une ambiance totalement différente de ce qui pouvait se passer en ville à Namur-Centre, parce qu'ici on est vraiment dans une ambiance de village, avec le rôle très important du curé, le rôle très important de l'instituteur. Donc ça nous amène encore dans des horizons très différents. Et le lien avec Namur, c'est que son papa était ouvrier à la CNCB au Bas-Pré, et notamment il a fabriqué des outils qui servaient à la résistance. Donc voilà, ça élargit encore notre cadre d'approche de ces histoires de Namur quand c'était la guerre. Alors, je remercie vivement Charlotte de la maison de repos des Chardonnerets, qui est gérée par le CPAS de Namur et qui se trouve à Jambes, celle qui a permis de nous mettre en contact, parce qu'elle a organisé une rencontre très très chouette auquel j'ai participé. Il y avait plein de participants, de résidents qui ont manifesté leur intérêt pour le projet, donc c'était vraiment très agréable. Et il y a pas mal de témoignages qui vont venir prochainement, qui seront ceux de résident des Chardonnerets, donc à Jambes. Donc merci à Charlotte, l'ergothérapeute. Alors si vous aussi vous souhaitez témoigner, il faut vraiment se dépêcher de nous contacter parce qu'on va clôturer les témoignages, mais en tout cas la liste de personnes dont on va recueillir le témoignage, on va clôturer ça ici ce mois de mai. Donc pour ça, il faut nous contacter soit via notre site, donc sur namurenguerre.be, il y a le petit formulaire à compléter, soit vous nous envoyez un mail à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be. Vous pouvez également nous téléphoner au 0474 114 909, 0474 114 909, ou nous envoyer un courrier à l'adresse ASBL Namur Initiative Citoyenne, rue Moncrabeau 6, à 5000 Namur. Je vous remercie vivement et je vous laisse donc en compagnie de Roger Marchal.
Oui, on avait à cette époque-là beaucoup d'avions avec des sirènes qui faisaient un bruit stressant. Et on se demandait toujours, donc les gens se demandaient si c'était un avion belge ou si c'était un avion allemand. Et en principe, on ne l'a jamais su et on a pensé que c'était un avion allemand et qu'il ne mitraillait pas, mais il passait son temps à survoler donc les patelins avec sa sirène hurlante. Donc ça, c'était la prédéclaration de guerre. Puis, le bourgmestre, Léon Massard, a réquisitionné, voyant la situation, a réquisitionné un chariot de ferme. Nous sommes à Esbeille, donc un grand chariot de ferme à la fermier Vens et un deuxième chariot à la ferme Troussard, donc tous aux ateliers. Et donc les gens du patelin se sont réunis pour s'en aller parce qu'on nous avait demandé de partir. Oui, parce que pour expliquer, pour bien comprendre la situation, l'instituteur Jules Dupagne avait fait la guerre de 14 comme brancardier et le curé Joseph Wilson était un Tamenois pur sang qui avait eu sa famille décimée en 14-18. Ce qui fait que ces deux personnes-là, qui étaient considérées dans le patelin comme deux gendarmes, avaient pratiquement un droit d'autorité, si vous voulez. Et ils nous ont dit qu'il fallait nous apprêter et qu'on évacuait. Et alors, donc, on a chargé avec ce qui était de première nécessité dans les deux chariots en question. On a pris des chevaux de chacune des deux fermes et on est parti vers la France. Donc, on a pris pour ça la route de Nivelles. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à Sombreffe. Mais, à Sombreffe, là, on a eu la surprise de voir arriver derrière nous des soldats allemands. Et alors là, il y a eu donc en fait, c'était une colonne. Il y avait là un jeune sous-lieutenant qui s'est adressé aux évacués, donc que nous étions. Et dans un français parfait, il nous a dit « Vous voyez qu'il ne se passe rien, vous retournez chez vous et vous travaillez. » Ça, je l'entendrai toujours. Il insistait sur le fait qu'on retournait, c'était pour travailler. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, à ce moment-là, il faut dire, donc, par la suite, l'impression que j'avais même gamin, parce que finalement, j'étais assez concerné, malgré tout, pourquoi je n'en sais rien, mais il faut dire à de rares exceptions près. Il y a eu des batailles, mais autrement, en bonne réalité, les Allemands ont entré en Belgique comme dans du beurre. Et alors, fatalement, on s'est retrouvés occupés. Et à ce moment-là, on avait... Donc, vraiment des batailles, moi, personnellement, je n'en ai pas connu. Pourquoi ? Parce que... L'armée belge, c'est malheureux à dire, mais en 40, était inexistante. Le plus souvent, mais pas dire tout le temps.
Il existait jadis sous le ciel andalou un pauvre muletier qui était fort jaloux. Sa belle était à la ville, lui toujours par les chemins, comme il n'était pas tranquille de la savoir aussi loin. À tous les gens qui passaient, le muletier demandait si vous allez à Séville, vous y verrez mes amours sous une pauvre mantille, des grands yeux noirs de velours. Dites-lui qu'elle soit fidèle jusqu'au jour de mon retour. Et dites-lui que je l'aime en perdre la raison. Et que mon plus beau poème, ma plus belle chanson, c'est toujours son nom. Il arriva qu'un soir la belle rencontra un seigneur de Cadiz venant à la feria. Le seigneur était bel homme, la belle avait 18 ans. Comment résister ensemble lorsque chante le printemps? Et le Seigneur à jamais l'emmena dans son palais. Et depuis lors sur les routes va le pauvre muletier. Il a le cœur en déroute, de tous la pitié. Il pourrait mieux cacher sa peine et pourrait pleurer sans témoin au vieux mulet qui l'entraîne à chaque pleur du chemin. Au vent léger de la plaine, le pauvre muletier chante son chagrin. quartier.
Après, on a commencé donc avec le thème de ravitaillement et tout le Bataclan. Hein. On s'est organisé comme on a pu et on a travaillé avec le thème de ravitaillement, il fallait bien. Donc c'était... Moi, je suis fils d'ouvrier, donc on n'avait pas de moyens et il fallait à ce moment-là tirer son plein. Mon père était au chemin de fer. Et il faisait déjà de la résistance, il a fait de la résistance très tôt. On a connu dans le patelin des gens qui commençaient à faire avec les Allemands. Et alors dans la famille Delcourt, on a eu un appelé Antoine Delcourt, qui s'est engagé donc dans l'armée pour être avec les Allemands. Et il revenait à cette époque-là au tram de Namur à Noville-les-Bois, Franc-Warren-Noville-les-Bois, Burden, et il était en habit, on le surveillait, et dans le bois de Tronquois, il descendait à Franc-Warren en habit, et on lui avait porté, donc de sa famille, dans le bois de Tronquois, des vêtements civils, et il s'habillait en civil pour entrer dans le village en civil. Et je me souviens bien que un dimanche à la messe, Antoine en question est arrivé au banc de communion avec tous les autres paroissiens qui allaient à la communion. Et le curé, donc je rappelle Taminois de Souche, est arrivé à passer out d'Antoine et a continué. Antoine est resté là tout le temps, jusqu'à la fin de la messe, et il a attendu que la messe soit finie pour s'expliquer avec le curé. Et le curé a dit, je ne vous donne pas la communion, parce que vous n'êtes pas un citoyen plein comme nous, vous êtes de l'autre côté. Et alors, ça s'est quand même passé sans autre problème, et on tirait son plein, on échangeait, on a le mechné, comme on disait en wallon. Donc on allait ramasser des poignées de grains et on battait. Pour battre, on prenait un vélo qu'on retournait et on pédalait, on faisait tourner la roue arrière et on mettait les épis pour battre. Donc, pour que le grain tombe. Alors on passait son temps avec des petits moulins à moudre ça. Donc on avait encore de la farine avec, malgré tout, des impuretés. Ce qui fait que pendant toute la guerre, moi, je n'ai mangé que du pain gris. En 44, chez nous, malgré tout, il n'y a pas eu de véritable bataille. Il y avait assez bien de résistants. Mais malgré tout, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils sont arrangés pour qu'on ne soit pas pris dans des combats. Et effectivement, personnellement, je n'ai jamais connu de combat et je n'ai jamais été pris dans des combats. Le gros problème, ça a été donc les accapareurs, comme on les appelait à l'époque, donc les commerçants et les cultivateurs. Donc les agriculteurs qui avaient profité de la situation et qui revendaient le sac, en ce qui concerne les agriculteurs, le sac de grains à des prix exorbitants. Mais c'était le prix courant à cette époque-là parce qu'il n'y avait rien d'autre. Voilà à peu près tout ce que j'ai connu. Donc des Allemands. Finalement, par rapport à l'instituteur et au curé, l'instituteur nous l'avait dit tout gamin que j'étais. Il nous avait fait comprendre que la situation de 40, en tous les cas là dans le Patelin, était tout à fait différente de ce que lui avait connu en 14-18. Et le curé, qui avait connu Tamine, nous racontait, bon, ça se passe encore relativement sans bruit, et finalement, ben, on a avancé avec ça, tout en faisant de la résistance, parce que là, des résistants, il y en avait, et pas mal. Mon père a fait de la résistance, il était au chemin de fer, et il en profitait pour faire des petits outils qu'on lui demandait qu'il pouvait servir. Donc il était ici au Bas-Pré, et le fait de rendre ça, ça nous permettait d'aller demander chez un cultivateur ou l'autre pour avoir un peu de farine blanche, pour essayer de mêler avec la farine de ravitaillement, qui était à peu de choses près du son, pour faire un pain un petit peu potable, quoi. Et là, pendant la guerre, à ce point de vue-là, point de vue nourriture, on n'a pas été gâté, hein, ça c'est un fait. Toujours chez les ouvriers. Hein.
Votre père, donc, c'est au Bas-Pré qu'il travaillait?
C'est ça, oui, il était au chantier, il était au Bas-Pré, oui.
Et alors, vous dites qu'il fabriquait des outils pour la résistance?
Donc, mon père, c'était un OMO, ouvrier machine-outil. Donc, il avait l'occasion, donc, premièrement, entre eux, puisqu'il était de la résistance, comme beaucoup d'autres, au Bas-Pré. Et, par exemple, des outils, comme on disait en Wallon, des stéquions, par exemple. C'est quelque chose, un outil comme ça, avec une lame courte, mais tranchante, et qui permet d'aller foncer, avec on mettait un manche à ça, hein. Donc, et ça permettait, en tenant le manche, d'aller foncer, aussi bien dans du chardon ou des histoires dans ce goût-là, que dans une porte fermée ou une histoire ainsi.
Et donc ça, c'était utile pour les résistants, alors?
Ah oui. Là, mon père, il avait aussi connu 14-18, tout jeune, mais il avait connu 14-18. Et alors, au Bas-Pré, il y avait quand même pas mal de résistants. Et donc, il faisait beaucoup de travaux comme ça, qu'on leur demandait, si des gens de la résistance demandaient, je ne sais pas faire ci ou ça, ou ci ou ça, s'il y avait moyen de le faire, ils le faisaient, quoi.
Et c'est lui qui fabriquait les outils, alors?
Ah oui, ben au Bas-Pré, hein. Donc là, donc fabriquer donc quelque chose de faisable, hein, bien entendu. Mais par exemple, comme au Stéquion, c'est du Wallon, ben là, ça sait se faire. Donc vous prenez une lamelle d'acier qui savait trouver facilement, et vous la façonnez pour arriver à permettre d'en mancher. Ainsi, ça vous permet de vous en servir et d'attaquer sous le nom des orties, n'importe quoi.
Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse: je t'apporte l'espoir, et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, reviens, gentil rossignol. de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa, et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, Rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens, gentil Rossignol. Rossignol, Rossignol.
Donc à Tillier, vous viviez avec votre père et votre mère aussi?
Oui. C'était... Donc nous étions là, nous trois, dans la maison maternelle. Donc c'était les parents d'Yvonne Colette. Ma mère, c'était Yvonne Colette. Et on était dans la maison de son père et de sa mère.
Vous n'aviez pas de frères et sœurs?
Non, non.
Et votre mère, elle travaillait ou pas?
Non. Ben, on était sur 1,36 hectare et elle passait son temps elle travaillait comme un homme, elle fauchait comme un homme. Donc on avait une vache et son veau. C'était classique, ça. Et alors, on essayait sur l'hectare 36, qui allait avec la maison, donc d'avoir du foin et d'avoir un petit peu à manger. Et on mettait un petit peu de betterave fourragère et on tirait son plan comme ça, quoi. Parce que c'était vraiment tirer son plan. Hein.
Vous aviez un peu plus de facilité avec les gens de la ville, mais pas
oui,
tant que ça.
Certainement. Donc, notamment, du fait qu'on avait une vache et son veau, on avait, donc au moins pendant une bonne période de l'année, pendant pas toute l'année, mais une bonne période de l'année, on avait du beurre, on avait du lait, ce qui était déjà appréciable. Hein.
Vous le vendiez ou vous le gardiez pour vous?
Elle coupait la poire en deux, elle la conservait, ma mère en conservait la moitié pour nous trois. Et alors, pour avoir un peu d'argent, elle vendait au prix fort, elle vendait le reste. L'autre moitié, elle le vendait à un type de marchoblette, je ne sais pas ce nom, c'est un type qui a fait fortune avec le marché noir, finalement, parce que c'était du marché noir.
Il y a beaucoup vous avez vu beaucoup de gens comme ça qui se sont enrichis grâce à la guerre?
Oh. Tout de suite après la guerre, oui, hein, vous aviez on les traitait, ils avaient un nom, les accapareurs, oui, c'était les accapareurs. À la campagne, oui, tout qui a pu vendre de sa production n'a pas hésité. Hein. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui, à cause de la guerre, effectivement, on retrouvait une santé financière. C'était connu à l'époque, les paysans n'étaient pas dans une situation brillante. Mais à la fin de la guerre, à ce moment-là, oui.
Alors vous parliez de l'instituteur, il n'y en avait qu'un pour tout le village?
Ah ben oui, mais nous sommes dans un... Oui, mais c'est un petit village de 120 habitants, hein. Et alors là, c'était une école mixte, donc le Jules Dupagne s'occupait des garçons et des filles, parce que les gens qui géraient la commune géraient vraiment comme pour eux, quoi. Hein. Donc il n'était pas question de faire des dépenses au-delà de normal, quoi, pour l'époque et pour le lieu là-bas. Donc on était dans un petit village de Hesbeye et on ne jouait pas au malin, ça c'est un fait.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
Une guerre oblige les gens à se priver et savoir que dans certaines circonstances, on peut être amené à tirer son plan avec pas grand-chose. C'est tout ce que je peux leur dire, parce que pour le reste, ben, on voit soi-même, par la force des choses, on voit soi-même ce qui se passe et comment on peut le mieux tirer son plan de la situation.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes ?
Ne vous découragez pas et ne croyez jamais que ça est arrivé, que la réussite est là. En fait, c'est pas vrai, la réussite n'est jamais là. Mais, bon, si ça va bien, tant mieux, mais gardez les pieds sur terre, quoi.
Et voilà donc pour le témoignage de Roger Marshall, qui est né en 1933 et qui nous amenait un petit peu plus loin, puisqu'on était à Tillier, avec la vie du village, mais pas que, puisque son papa était au Bas-Pré, donc à Namur. La semaine prochaine, on aura le témoignage de monsieur Jean-Marie Sonny, qui lui va nous parler de son père qui était sergent. Et c'est aussi très intéressant. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner, il faut vraiment pas traîner pour nous contacter, puisqu'on va clôturer la liste des personnes qui vont témoigner, on va clôturer ça au mois de mai. Donc vous pouvez nous contacter donc via notre site web namurenguerre.be, il y a un petit formulaire à compléter. Vous pouvez nous contacter par mail à l'adresse info@namurinc.be, info@namurinc.be. Nous téléphoner, c'est au 0474-114-909, 0474-114-909, ou encore nous envoyer un courrier à SBL Namur Initiative Citoyenne, rue Moncrabeau 6, à 5000 Namur. Je vous remercie vivement pour votre fidélité et je vous dis déjà à la semaine prochaine pour un nouveau témoignage.